Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et tous, merci d'être présents à cette table ronde de bon matin à 9h30 pour parler du corps et de l'esprit. Pour parler de ce sujet avec nous dans cette édition des Utopiales 2018, Lucie Pierre-Apageau, bonjour. Donc elle est l'autrice du cycle des Mystères de l'Arispem, également lauréate du prix Gallimard du premier roman. Avec nous également John Scalzi, auteur eh bien justement d'ouvrages qui traitent très directement de la question du corps ces derniers temps. Son roman Les Enfermés aux éditions La Talente et une nouvelle dont on va reparler dans l'anthologie des Utopiales 2018. Et puis l'homme dont on ne présente, qu'on ne présente plus aux Utopiales, l'un des maîtres de la science-fiction française, des cycles, le cycle des Guerriers du Silence, du cycle de Wang. Et ça a tout son intérêt pour cette table ronde, un vrai facteur spiritualité, un vrai traitement des religions dans vos ouvrages. On aura l'occasion justement d'y revenir sur la place de l'esprit et du corps. Pour introduire cette table ronde, on pourrait peut-être parler de la place du corps et de l'esprit dans nos esprits d'occidentaux, justement. On peut voir, par exemple, dans le cinéma, qu'on a toujours un petit peu de mal à ne pas associer systématiquement corps et esprit. Par exemple, lorsque vous avez une entité qui n'est pas censée avoir de corps humain, on va le voir à travers, par exemple, une sorte de petite incarnation lumineuse. Mais de l'autre côté, lorsqu'on a un corps qui est séparé de tout esprit, c'est un corps qui est associé aux monstres, aux zombies. On a une vraie association corps-esprit dans nos esprits occidentaux, justement. Lucie Pierre-Apageau, comment vous expliquez cette association entre le corps et l'esprit, association quasiment systématique ?
C'est pas gentil de me faire répondre à ce genre de questions dès le matin, là, comme ça. Je sais pas, peut-être une longue tradition philosophique et aussi. Oh, ça va. et religieuse de nos sociétés occidentales. Après, comme je n'ai pas de doctorat, je ne peux pas vous répondre, donc je pense que Pierre est tout à fait apte à répondre à ce genre de questions compliquées.
Merci de me refiler le bébé.
Mais de rien.
Mon corps est là, mais mon esprit, je ne suis pas sûr qu'il soit là, du coup. Alors, c'était quoi la question déjà ? C'est l'association corps-esprit. Effectivement, il y a une représentation de l'esprit pur, qui est par exemple celui des anges dans la Bible et dans d'autres livres religieux. Je pense qu'il y a une particularité à l'être humain dans nos religions, c'est celle d'avoir les deux, justement, le corps et l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans un corps. Comme si, et là je rejoins beaucoup la tradition hindouiste et ce genre de pensée, c'est-à-dire que nous, notre rôle ce serait d'explorer la création. Et pour explorer la création, il nous faut un véhicule, et ce véhicule c'est le corps, qui renferme l'esprit, qui nous limite donc dans l'espace-temps, et qui nous permet sûrement d'avoir une expérience matérielle de la vie. Donc voilà, donc c'est en tant qu'être humain, alors je ne parle pas des entités dont vous parlez avant, hein, donc des purs esprits ou des corps sans esprit, ça peut exister probablement. L'être humain se définit, je pense, par ce côté corps et esprit mêlés, étroitement imbriqués, et avec aussi le fait que le corps va disparaître et que l'esprit, je ne sais pas si la question c'est de savoir si l'esprit survivra au corps. Et c'est ça qui est très intéressant d'ailleurs dans la vie à explorer, je pense. Voilà, c'est cette association-là me paraît être le propos même de l'être humain.
Dans vos ouvrages, vous parlez beaucoup de la spiritualité hindouiste ou bouddhiste, des spiritualités orientales donc. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence dans leur approche du corps et de l'esprit par rapport à ce qu'on peut retrouver en Occident ?
Déjà, il y a peut-être une perception différente de la mort. Dans ces religions-là, la mort est une porte ouverte sur une autre vie. Donc, il y a moins un aspect dramatique de la mort. Évidemment, la religion chrétienne promet aussi une sorte d'immortalité du corps, finalement, parce que de résurrection des corps après la parousie, après le retour du Christ. Mais... Je pense que dans les religions occidentales, il y a une sorte de... Enfin, moi, j'appelle ça une captation matérielle de la spiritualité, c'est-à-dire que la religion propose des marchés, une sorte de marché avec les fidèles en disant, voilà, si vous vous comportez de telle façon, si vous observez tel rituel, eh bien, vous avez une chance d'accéder à la vie immortelle et puis après la mort. Dans les religions orientales, je pense que l'accent est plus mis sur la responsabilité individuelle de sa propre vie. C'est-à-dire que c'est action, réaction, c'est ce qu'on appelle le karma, qui est souvent un peu déformé. D'ailleurs, on a souvent une vision un peu déformée du karma, je pense, en Occident. Le karma, pour moi, c'est action, réaction. C'est-à-dire tout ce que vous faites dans votre vie, ça a un impact quelque part qui vous revient d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est à la fois moins dramatique parce que... Évidemment, dans la vision occidentale, la mort fait peur. D'ailleurs, on peut constater qu'avec la science-fiction, les nouvelles technologies qui prennent le relais de l'Église pour promettre une sorte de paradis, pas post-mortem du coup, mais de prolonger la vie au maximum par cette espèce de peur de la limite qui est la mort, ça prend le relais des religions. Et je préfère moi la vision occidentale qui est nous sommes... C'est cyclique, hein, cette espèce de vision cyclique qui est nous sommes amenés à disparaître comme tout, comme les saisons, comme ça tourne en permanence, et que le départ qui paraît être la mort n'est pas un départ définitif, mais c'est une ouverture vers autre chose et qui regarde chacun à la mesure de ce qu'il a fait dans sa vie.
John, dans l'anthologie des Utopiales, vous avez écrit une nouvelle où le cerveau du président des États-Unis quitte son corps. Alors, dans cette situation, d'après vous, où est le président ? Est-ce qu'il est dans le cerveau, qui est ailleurs, ou est-ce qu'il est dans son corps ?
I wrote that piece in 2010, so I need to be very clear it is not an allusion to the current president of the United States as much as it would seem that it would be. In this particular case, the technology is that the mind has effectively been cloaked by a multidimensional technology that the brain is there, it's just hidden from observation from the outside. So if you were to poke a hole into the president's head, apparently the brain would be missing. And it's more that it was like a Stargate or a transdimensional door that is in the shape of the president's brain that goes out. But it does bring out the interesting question of, the mind is, in that case, literally separated in some way from the body. What are the repercussions of that? I happen to tend to be someone who is a materialist, who kind of believes that this world is the world that we have, that the mind is an artifact of the body, and the consciousness arises because of what's happening in the brain. So for me, the question of mind and body is from a very materialist point of view, actually a very simple one. They are innately rooted with each other, and the mind is not so much separate from the body, but the body being cognizant of itself, recognizing itself, and being able to see beyond itself. So when we talk about mind versus body, for me, we're just talking about variations on the same theme, that one won't exist without the other, essentially. So even go back to the short story, even though the president's brain is hidden in a science fictional sense, it is still there. It is still part of his body, even if it is temporarily, spatially misplaced.
L'un des sujets centraux de cette édition des Utopiales, ça a été le transhumanisme. Et pour les transhumanistes, il y a une théorie, ou même une volonté, c'est celle du mind uploading. Donc c'est l'idée de transférer notre conscience, notre cerveau, notre esprit, dans un ordinateur, dans un monde virtuel. John, qu'est-ce que vous en pensez, en fait ? Est-ce que vous pensez que c'est crédible ?
I think something will happen where... at least some aspects of a brain or a mind can be uploaded. But then again, it doesn't stop being part of a body. It just changes what body it is part of. If you transfer your brain to a computer, or to some sort of mechanical body, then you are part of that body, and your mind will be affected by the parameters of that body, that by the functionality of that body. So when we talk about uploading, all we're saying is basically we want to put our brain somewhere where it won't get injured and it won't die as easily as it will in these sorts of bodies. So you put it into a computer with the idea that the computer will last much longer, which is ridiculous if anybody here has ever had a computer. They do not last as long as a human body. But the idea that that the mind is now somehow free of physical constraints is again ridiculous. You are still the processes, the simulation of the mind, whatever it is that you want to call it, is still bounded by whatever machine that you put it in. Its capabilities will be bounded by that machine. If you upgrade it to another more capable machine, you will still have those physical boundaries. So once again, even if it is possible, which I suspect in some way or form in the future it may be, you are still, again, limited materially by what it is you put your brain into.
Lucie Pierre-Apageau, si demain un transhumaniste vous offre la possibilité d'uploader votre cerveau, votre esprit dans un ordinateur, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous pensez que votre esprit peut survivre au transfert dans un ordinateur, dans une machine?
L'idée me semble effectivement séduisante et je pense que j'hésiterai un petit peu. Et après, bon, c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait? Où se trouve le cerveau? Est-ce qu'il flotte quelque part dans du formol? Et quelle est finalement l'interface que je vais avoir avec la réalité? Est-ce que je vais avoir une interface extrêmement limitée ou est-ce que je vais être projeté du coup dans une sorte de monde parallèle comme enfin un univers de jeux vidéo par exemple où j'aurai d'autres types d'interfaces, mais où du coup est-ce que les sens vont être stimulés autrement? Est-ce que je vais avoir l'impression de voir, de sentir, etc. Ça paraît étrange. Et puis aussi se pose la question de est-ce que je serai toujours moi-même, puisque à partir de combien de choses qu'on retranche, est-ce qu'on peut toujours être soi-même? Est-ce que mon seul cerveau, mes souvenirs, sortis de mon corps, est-ce que ce sera toujours la même chose? C'est, le paradoxe du bateau de Thésée. Où, selon la légende, Thésée allait vaincre le Minotaure, il revient avec son bateau, et comme les Athéniens veulent entretenir le souvenir, chaque année, il change toutes les pièces défectueuses du bateau, si bien qu'au bout d'un moment, est-ce que c'est le même bateau, si on a changé toutes les pièces, ou est-ce que c'est un autre bateau? Donc là, c'est pareil, si on enlève tout mon corps et on garde que mon cerveau, et ensuite on lui crée un univers virtuel, est-ce que c'est toujours moi? Ou est-ce que c'est pas une sorte d'avatar qui me ressemble un petit peu, mais pas tout à fait? Donc je pense que j'aurai beaucoup de nuits sans sommeil avant de répondre à la question. Voilà. Et puis, et si l'ordinateur casse? Et si l'ordinateur bug, qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Voilà.
Pierre Bordage?
Est-ce que j'accepterais ça si on me proposait? Absolument pas. Je pense pas que mon cerveau vaille la peine d'être conservé aussi longtemps. Et puis j'aurais besoin de repos aussi. Et je pense que ne pas goûter de repos jamais, ça ne me plairait pas du tout. Alors moi, je pars du principe inverse de celui de John, c'est-à-dire que je suis plutôt de type spiritualiste, c'est-à-dire que la pensée matérielle m'intéresse assez peu, dans la mesure où c'est une pensée qui finit en permanence. Et je pense que... Il faudrait savoir ce que c'est que l'esprit exactement. Est-ce que c'est la somme des connaissances acquises dans une vie? Est-ce que c'est la somme de nos souvenirs? Est-ce que c'est une mémoire? Est-ce que c'est ça l'esprit? Est-ce que c'est ça qu'on transférerait dans un ordinateur? Éventuellement, ce serait ces expériences qu'on a vécues dans une vie, qui du coup seraient complètement absurdes parce qu'on n'a même plus le corps pour les ressentir. Donc ça ne correspondrait à rien du tout. Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, pour moi, c'est autre chose. Alors, est-ce qu'on peut parler d'âme au sens religieux du terme? Je ne sais pas quel mot, conscience. Pour moi, le cerveau n'est qu'une interface de l'esprit. C'est-à-dire que je pense, et c'est la voie que je choisis d'explorer, mais ce n'est pas forcément la bonne voie, j'en sais rien. Disons, c'est celle-là qui m'intéresse d'explorer. Je pense que... quand le corps disparaît, la conscience demeure. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, la somme de des mémoires ou des souvenirs acquis dans une vie? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est ce principe de vie exactement qui subsiste. Mais il me semblait, quand j'étais enfant, entendre, percevoir quelque chose de particulier qui s'appelle une sorte de chuchotement qui me semblait être un bruit du monde ou quelque chose, une sorte de présence. Et c'est ça qui m'a poussé plutôt à réfléchir dans ce sens-là, et aussi à étudier les religions, parce que, comme je disais tout à l'heure, ce sont des captations matérielles, donc ce sont des détournements. Hein, elles ne répondent pas du tout à l'aspiration spirituelle que moi je ressentais quand j'étais enfant. Il ne m'intéresserait vraiment pas, parce que ce qui m'intéresserait au contraire, ce qui m'intéresse dans la mort, c'est l'oubli, c'est l'effacement. Est-ce qu'il ne reste que le principe vital fondamental de l'être, cette espèce de note de musique très particulière, parce que je pense que nous avons tous un son particulier, une vibration particulière dans la création, et que nous sommes tous indispensables, et que si on était vraiment conscient de cette nécessité-là, on ne ferait jamais de mal à personne, parce que chaque vibration est très importante dans la trame humaine. C'est plutôt dans ce sens-là que j'essaie d'explorer la vie. Garder en mémoire indéfiniment mes expériences, mes souvenirs acquis dans une vie, m'intéresse vraiment pas du tout, puisque c'est un poids énorme qui nous éloigne probablement. C'est comme si on avait une sorte de gang par-dessus cette vibration fondamentale que je ressens et qui nous empêchait d'y accéder. Voilà, donc je pense que la mort est une expérience indispensable, et elle est là aussi la particularité de l'être humain, et que le transhumanisme fait fausse route dans la mesure où on n'a pas encore atteint l'humanité, qu'on pense déjà à post-humanité. Alors, de la post-humanité sur de la non-humanité, je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est une route un peu dangereuse, et que l'important actuellement, même l'essentiel, je pense, dans les années à venir, c'est de retrouver notre humanité, notre véritable, de la trouver, parce que je ne sais même pas si on l'a trouvée un jour encore.
John, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche de Pierre Bordage?
It's interesting.
Thank you.
I mean, I think that certainly before we do consider what we want for transhumanism, we have to have a good idea of what it means actually to be human. Because again, even if we are talking about transhumanism, even if we are talking about replacing our bodies or uploading our minds or whatever, we have to understand what the consequences of that are well enough. As you note, if you upload your brain into a computer or to an android, into a spaceship, or whatever it is, into your cat, whatever it is that you upload your mind into, your consciousness, your mind will change and adapt to that new body, whatever it is. And in fact, you will not be the same person, just in the same way. We experience this already. You are not the same person at 40 that you were when you were 5. There is a continuity of thought, there is a continuity of memory, there is a continuity of experience, but you are fundamentally not the same person. And not just because you have had more experience, like Theseus's boat, your body has been replaced several times over and over by the cells in the body, by people who have come and gone. Everything has changed. And just as we know that we can't squeeze ourselves back into the body of a 5-year-old, or even when we were 15, or even when we were 25, so won't we be able to have the same experiences when we are in any other sort of body? So before we do move on to a transhumanism thing, it's best that we understand where we are now. Bear in mind that we're humans and we will go ahead and do it anyway without any thought to what are the consequences of that, because we are curious little mammals who go, hey, what happens when you press this button? So someone will inevitably try to upload their mind or upload their experiences or do that sort of thing without an idea of what the consequences are. And we will certainly try to monetize that uploading of our brain. You will never lose a memory again. you know, because just offload it into your brain, and then you'll have your current brain all fresh and ready for new experiences, while everything else is stored off-site at Google, right? Google Brain. And that's going to be, and people will go ahead and sign up and do it and not necessarily worry about the consequences, and that's going to bite them in the ass, as these things always do. Transhumanism will not be what we expect it to be, simply because we will rush into it without the worry about the consequences. And so when the consequences come, it'll be too late.
Lucie Pierre-Apajot, dans le dernier roman de John Scalzi, on a des êtres humains qui sont bloqués dans leur corps. Et j'aimerais bien vous demander, lorsque vous écrivez un roman, est-ce que vous avez l'impression de donner vie dans votre esprit à vos personnages? Est-ce que votre esprit se divise en plusieurs esprits? Ou est-ce que cela reste vous, ces personnages?
J'aurais tendance à penser que c'est tous des avatars de moi-même, effectivement, donc une sorte de division de mon esprit avec, j'utilise probablement certaines facettes de moi en poussant les curseurs à fond ou en les diminuant. Du coup, oui, il y a une sorte de division de l'esprit pour en faire ça, de petits avatars qu'on met sur le papier et puis après qu'on fixe et on oublie au fur et à mesure que ça a été des morceaux de nous jusqu'à certaines fois trouver, c'est moi qui ai créé ce personnage, je le trouve très étrange, voilà. On oublie un petit peu des fois que ce sont des sortes de petits morceaux de nous-mêmes qu'on a mis en route, voilà, on a bien remonté leurs petits ressorts et ils vont leur petit bonhomme de chemin sans nous. J'ai tendance à voir plutôt les choses comme ça.
Vous ressentez la même chose lorsque vous écrivez, Pierre Bordage?
À peu près, oui. Les personnages sont indépendants de moi, mais sont nourris de moi. Donc, c'est un petit peu, si je peux me permettre cette comparaison, un enfant par rapport à ses parents. Il est à la fois nourri de leur génétique, mais en même temps, il est indépendant, il a une autre carrière, une autre personnalité. Et mes personnages me surprennent parce qu'ils prennent des directions totalement inattendues parfois. Il meurt alors que je m'attendais à ce qu'il devienne important dans l'histoire. Certains personnages ne sont pas du tout importants au début de l'histoire et prennent une importance démesurée au fur et à mesure. Et donc, pas une révolte, mais une vie propre des personnages à l'intérieur de moi. Et cependant, ils sont quand même nourris de moi. Donc, c'est assez compliqué de discerner la part de soi-même dans les personnages. Parce que certains personnages me surprennent vraiment. Quoi. Je ne m'attends pas du tout à leur réaction, je ne m'attends pas du tout à ce qu'ils deviennent. Certains, là, par exemple, dans L'Enjeu mineur, j'ai voulu faire un méchant, un véritable méchant, pour me venger d'un prêtre dans ma jeunesse. Et ce personnage trouve sa rédemption, et c'est malgré moi. Donc il a imposé, comme s'ils imposaient leur destin à l'auteur que je suis, et qui me montre que finalement je ne maîtrise pas grand-chose, voire rien du tout, et qu'il vaut mieux les laisser vivre, parce que de toute façon, ce sera plus intéressant que si je leur imposais ma volonté.
Tout comme les enfants humains, les personnages, des fois, n'en font qu'à leur tête.
Et c'est ça.
Et on a beau essayer de leur imposer une discipline de faire, ça ne sert à rien.
Non. J'ai totalement renoncé, d'ailleurs, à leur imposer une discipline. Je discutais avec certains auteurs qui sont plutôt de type... qui ont besoin d'une structure très importante avec des fiches de personnages, fiches de caractères, etc. Moi, je suis incapable de faire un truc pareil. Quoi. Il faut vraiment que mes personnages vivent leur vie. Et puis,
I'm somewhere in the middle here, which is that when the characters start off, obviously they're a creature of my own mind. And I shape them however I shape them. The story goes however the story goes. Then it goes out to the readers, and the readers are an active participant in this as well, and they shape the characters as well, because their apprehension of what the characters are is going to be different than mine. They're going to read somebody that I thought was very sort of interesting. They may find him exhausting and tiresome. Another character who I thought was just a small character, they may see as essential. And what's really interesting is when those characters go beyond the book. One of the things that happens in science fiction quite a lot is that readers become fans, and they get so excited about the characters and the universe that they can't wait for us to write the next book, so they start writing fan fiction. And when they write fan fiction, they take the characters and they start having the characters do their own thing. And then all of a sudden, this character that you have created starts being the product of someone else's mind as well. Officially, and you know, officially it's not canon, I still own the copyright, legal. But, but beyond that, quite honestly, the fact that people start taking these characters into their own hearts and into their own minds and start creating new scenarios and new adventures for them means that that character is no longer merely a product of my own mind. And then, of course, on a much more formal sense, if you ever take something and it becomes a TV series or it becomes a movie or a comic book series, those things, and they're not written exclusively by you and directed exclusively by you, then again, they will take on another whole life entirely. You do birth your characters, you do create them out of your own mind, but they sort of develop their own bodies, as it were, and other people participate in their further creation.
Oui, là, je suis complètement d'accord avec John. C'est vrai que ce sont après les lecteurs. Je suis toujours surpris quand je discute avec les lecteurs qu'ils me disent ah mais moi c'est ce personnage-là qui m'a intéressé alors que je l'avais pas vu venir. Ou là c'est quelqu'un d'autre, ça va être l'autre personnage. Enfin c'est vrai que les lecteurs s'emparent des personnages et qui deviennent le miroir des lecteurs finalement.
John, justement, tout à l'heure, je citais votre ouvrage Les Enfermés à Lucie. Dans cet ouvrage, donc, des êtres humains sont bloqués dans leur corps. Le corps est débranché, mais l'esprit est toujours là. Est-ce que le corps peut être considéré comme un poids pour l'humanité?
You're going to have to repeat the question because the translator was not ready yet.
je crois que c'est bon.
Oh, okay. So you were talking about locked in where they're plugged in, well, what's going on with their minds? Well, again, there's a number of things that are going on with the with their minds. Their bodies are locked, but the bodies still exist, and they actually have two separate bodies. They have the body that is the physical body, the human body. Then they have a body that is a mechanical body that they go out and experience the world in. And then there's this third thing where they have a online world that is separate and their own place. So so it's actually a tripartite status. They have three ways of apprehending the world. And I think that's really interesting because, one, they get the sensation of being in their own bodies but not being able to do anything with those. That's going to have an effect on their mind. They are going to have the effect of going out in the world in these machine bodies and being fully capable, but because they are machines, they are alienated from everybody else in a really fundamental sense. Even if you know that there is a human inside of this android body, you're still going to look at them as a machine, and you are still going to deal with them in that way. And then there's this third part where all the people who have experienced this issue of being locked into their bodies participate in this online realm, and they have developed it and shaped it and created a community there separate from everything else. And that's going to have a impact on how their minds work as well. So in many ways, the mind of a Hayden, the mind of these people who are locked into their bodies, is going to be unique from the mind of somebody who is able-bodied or somebody who doesn't have access to this online world. And again, this is the mind is shaped by the circumstances and consequences of their bodies. They have three, we have one. But we see that in the world today. I mean, women have an apprehension of the world that is fundamentally different than the apprehension of men because the way that the culture is shaped, the way that their bodies are shaped, the way that we have decided to set up the structure of our universe. Equally, people who are trans and non-binary have a different apprehension of the world as well because they are inhabiting in a space that previously was not given a space to exist, and we're figuring all of that out. Again and again, we see that how our minds are shaped is often and fundamentally a part of how our bodies interact with the world.
Pierre Bordage, dans la Fraternité du Panca, il y a un personnage que vous décrivez comme étant très religieux, un sannyasine, si je ne me trompe pas, qui s'inflige des souffrances à son propre corps, alors que la religion est censée mettre l'esprit au centre de son discours. Comment expliquer que, malgré tout, le corps soit si important dans la psychologie de ce personnage pour son propre esprit ?
Vous voulez dire important là, au point de s'infliger des souffrances ?
Voilà.
Oui, ce qui existe, c'est juste un modèle que j'ai pris dans la religion chrétienne particulièrement, où la mortification fait partie du processus, où souvent le corps est considéré comme quelque chose d'impur, donc qu'il faut absolument maîtriser, qu'il y a des pulsions et qu'il faut contrôler en permanence. Et souvent la religion, d'ailleurs la religion du livre principalement, parce que la Bible c'est un peu pareil, quand on lit des passages de la Bible, il y a quand même toujours une tentative de contrôle du corps. Mais alors après j'ai beaucoup réfléchi sur ces contrôles du corps, parce que ça arrangeait beaucoup de monde sur le plan matériel. Par exemple le célibat des prêtres qui a une vocation purement matérielle, dans le sens où les biens des prêtres reviennent à l'église. Donc il y a toujours ce contrôle du corps, et en particulier du corps des femmes, parce que évidemment la génétique, une femme est sûre que son enfant vient d'elle, elle n'est jamais sûre que ce soit le père. Et comme c'est un monde patriarcal, la Bible et les religions du livre, il y a cette tentative de contrôle de la sexualité féminine pour être sûr que les patriarches vont donner à hériter les biens à leur propre enfant, à leur véritable enfant. Évidemment, c'est une illusion totale, je pense, de vouloir contrôler ça. Mais l'Église a toujours essayé de contrôler les corps d'une façon ou d'une autre. Et la mortification fait partie des processus pour affirmer la primauté de l'esprit. Le corps dans une vision chrétienne est probablement aussi, enfin particulièrement chrétienne, mais c'est aussi biblique. Le corps est souvent un ennemi qu'il faut vraiment maîtriser en permanence, contre lequel il faut lutter, qu'il faut contrôler. Et à mon avis, il y a des visées différentes derrière tout ça. Je ne sais pas si c'est un rapport avec la question, mais bon, c'est un satnaga, je pense, dont vous parlez. C'est un mixte de, parce que le satnaga, vous savez, j'ai pris le modèle du naga du guerrier de Shiva en Inde, qui va nu dans la Kumbh Mela, qui est le grand rassemblement religieux indien qui a lieu tous les 10 ans, sont en tête des cortèges. Ce sont des guerriers vénérés, et j'ai pris ce modèle là pour mes satnaga dans la Fraternité du Panca.
Alors, on a essentiellement parlé du corps humain depuis le début, mais peut-être qu'avec Lucie Pierre-Apageau, on pourrait élargir au corps social, parce que dans vos romans, il y a des corporations. Et ces corporations, d'après vous, est-ce qu'elles constituent un seul et même esprit qui rassemble tous ces êtres, ou ça reste une multiplicité d'esprits différents ?
Alors, effectivement, dans mon roman, on a affaire à une corporation, donc la corporation des bouchers, qui existait réellement au 19e siècle à Paris, comme mon roman prend place dans un 19e siècle alternatif. La réalité n'est pas très éloignée la réalité de mon roman n'est pas très éloignée de la vraie réalité. Donc cette corporation de bouchers, c'est une corporation donc de métiers qui effectivement est assez puissante, dans le sens où justement les différents individus font corps. Donc voilà, c'est le cas de le dire, ils sont vraiment unis, déjà parce qu'ils font le même métier, et aussi par un ensemble de valeurs. Et dans le cas des bouchers, donc de ces louchébem, ils ont même un langage à eux, donc l'argot des bouchers, le louchébem, qui repose sur une inversion de l'être, et qui fait que, voilà, justement, on peut se parler de membre d'une corporation à autre membre d'une corporation sans être compris, par ceux qui en sont extérieurs. Donc, c'est d'ailleurs pas le seul argot qui puisse exister. Hein. Il y a d'autres corporations, par exemple, je pense à l'argot des voleurs. Voilà, pareil, on a plusieurs individus qui font corps, qui forment presque une même entité, en fait, et qui ont leur langage à eux, leur code à eux. Et si on est extérieur, eh bien, ça peut être très difficile de comprendre, très difficile de rentrer. Donc après, bien sûr, il peut y avoir plusieurs individualités, mais je pense que le fait d'appartenir voilà, à une corporation comme ça, si on commence à devenir trop différent, on peut être rejeté. Voilà, justement, comme un corps étranger, on n'est plus adapté à cette corporation, donc on en sort. Voilà, moi, c'est les bouchers, mais on pourrait étendre ça à toute... enfin, je sais pas, une association, un cercle d'amis. À chaque fois, on est fédéré autour de quelque chose. On a un certain nombre de codes qui sont formulés ou inconscients ou voilà, qui sont là. Et puis après, tant qu'on est à peu près dans les codes, ça marche. Et si jamais on commence à avoir une individualité qui ne s'accorde plus avec le groupe, on risque d'en sortir un peu vite.
Mais il y a un phénomène bien connu où lorsqu'on fait partie d'un groupe, parfois on est entraîné et presque on perd notre propre libre arbitre. Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène justement ?
Ben, par exemple, moi, je vois ça avec mes adolescents au collège, puisque je suis aussi professeure. Et on voit bien à cet âge-là que ouais, c'est le groupe, enfin c'est bien connu, le groupe détermine l'adolescent social. Et si on n'a pas de groupe, et ben justement, on est le loser qui n'a pas d'amis, qui est tout seul, qui est un peu bizarre, etc. Et c'est sûr que quand je vois mes petits groupes d'adolescents, ils tendent à tous se ressembler les uns aux autres, on a la même écharpe, on a la même façon de parler, et parfois on les voit changer d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, pour s'intégrer au groupe, tout simplement parce que c'est ce qui est le plus fort, et ça prime sur toutes les autres, sur la famille par exemple, ou sur voilà, le terreau social où on a grandi, parce que ben, qu'est-ce qui est meilleur que de se retrouver en compagnie de gens qui partagent voilà, les mêmes valeurs et même si on ne les partage pas, on a tellement envie d'être comme eux, de faire partie de cette espèce de nouvelle famille qu'on va essayer de s'adapter, même si à la base, on ne leur ressemble pas du tout. Quoi.
John, justement, ce phénomène de plusieurs esprits qui deviennent un seul esprit, dont on vient de parler avec Lucie, c'est plus fort que jamais avec Internet, non ?
Well, I mean, I think that's very certainly the case because previously you were limited to the people that you knew in your community and you could only find them basically at your high school or in a club or something like that. And now, of course, the internet lets you find whoever it is that you share an affinity with. And so then you can start, you identify with them, you start sharing opinions with them, you start doing all that sort of thing. I mean, we are essentially, we're primates, we're tribal. We've always, we kind of bind together in groups. Now, the really interesting thing about bringing together people through the internet is that you often miss something that's really important when you have a body. Like if you and I are having a discussion and we are having a vehement discussion and you disagree and I disagree, we are still generally trying to keep the peace between us because we are in a very short, enclosed physical space, and unless we're really going to come to physical blows, we want to maintain some sort of peace. When you don't have the body and you're only exercising your thoughts, you can go to much further extremes than you would normally. And we see that when there's a separation, when there is a separation of the mind and body in that sort of way, the mind tends to go to extremes. This is one of the reasons why, for example, there's a phrase in the United States, I don't know if we have it here in France, but I'm sure that you do, a thing called road rage, where you get in your car and all of a sudden everybody's IQ drops 50 points and you're yelling and screaming at the people in the other cars. And part of that is because you're enclosed in this box and you are separated from them. And so when you yell at them, you don't have to deal with them responding. And if they do respond, they can respond the same way, but you're both in these super safe boxes and you're not going to have to interact with each other. So the real interesting thing that happens is when we form these affinity groups that are not bounded by physicality, and what that does to how we relate to each other. We become body blind, and that means we let our emotions and our anger and our fears and all those other things run far ahead of what they would do otherwise.
C'est pour ça que, par exemple, voilà, le cyberharcèlement est très, un problème très compliqué, puisqu'effectivement, on attaque de façon désincarnée un adversaire qui est loin, qu'on ne voit pas, on est caché des fois derrière un pseudonyme. Donc forcément, on peut se permettre d'être extrêmement violent, puisqu'on ne prend aucun risque finalement, ça ne nous coûte rien, et on sait qu'on aura un effet maximum de l'autre côté. Donc oui. Ça marche, mais c'est un peu lâche, beaucoup.
Yeah, well, and also the thing is, of course, I mean, we're using this, talking specifically about the internet, but of course, this has always happened before. In the 17th and 18th centuries, people would publish anonymous pamphlets where they would take somebody to task, and it was the same sort of thing. The fact of the anonymity and the fact that it was in written rather than spoken directly meant that they could be much more direct and much more emotional and say things that they wouldn't otherwise say. So what the difference now is that the internet is so much larger than someone writing a screed on a pamphlet that they distribute to a few hundred people.
C'est le côté corps social, groupe, il est extrêmement fascinant et où la somme est plus, la somme d'un seul coup devient plus que, enfin, le tout devient plus que la somme des parties d'un seul coup. Il y a un bouquin de Jean Tollet qui s'appelle Mangez-les et bien mangez-le maintenant, où des gens sont de braves gens, des villageois. Et puis parce qu'ils voient quelqu'un qui pense qu'il est en collusion avec les Prussiens, ils vont décider de le torturer tous et de le manger. Si simple que ça. Donc il y a un procès, ils sont condamnés à mort, et à la fin du procès, il y a un des villageois qui dit « Et pourtant, nous étions de braves gens ». Et c'est tout le phénomène des groupes qu'on voit dans les stades de football, qu'on voit dans les manifestations, enfin pas des manifestations, mais des groupements spontanés de violence, les pogroms qui ont existé dans l'histoire, etc. Et là, c'est des déferlements qui ne sont pas contrôlables, comme si le corps individuel n'existait plus, enfin l'esprit, ni l'esprit ni le corps individuel n'existait, et que d'un seul coup, ça devient un groupe. Mu par un seul esprit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un égrégore peut-être ou quelque chose comme ça, et qui est beaucoup plus puissant, qui emmène tout, qui balaye toute résistance d'un seul coup, et donc c'est un déferlement de violence qui est complètement inarrêtable. Et là, c'est fascinant. Enfin, je méfie énormément des réactions de groupe parce que je sais que dans le groupe, les individus perdent totalement leur repère. Et deviennent d'un seul coup assimilés au groupe. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable qui fonctionne.
Anecdote personnelle autour de ça, quand j'étais à la fac, un jour, mes amis m'ont traîné à une manifestation. C'était contre je ne sais même plus quoi, en fait. Et je n'avais jamais été à une manifestation de ma vie. Je trouvais ça vraiment très étrange. Et plus on avançait, plus ça devenait virulent, et moins je reconnaissais mes amis. Donc je les regardais, et même physiquement, ils avaient l'air de changer. En fait, ils étaient de plus en plus exaltés, de plus en plus violents, alors que je ne les avais jamais trouvés violents de toute ma vie. Et quand j'essayais de leur parler, en fait, ils ne m'écoutaient plus du tout, puisqu'il y avait cet esprit justement de groupe. Tout le monde avançait dans une direction en protestant. Tout le monde criait super fort, et moi, je me sentais justement complètement exclue de cette espèce de grand serpent humain où je reconnaissais même plus des gens que j'avais côtoyés pendant des mois en les trouvant très sympathiques. Donc il y a vraiment cet effet de changement, et quand on n'est pas justement intégré, pardon, on se sent brusquement totalement étranger, rejeté, c'est très déstabilisant.
Et on peut appliquer ça à l'échelle d'un pays. quand il y a une propagande suffisamment forte pour fédérer tout un pays contre une entité ou contre des ennemis fantasmés ou pas, ou un groupe particulier, eh bien, tout le pays va se mettre à agir contre cette minorité-là ou contre cet ennemi-là. Et on a vu ça dans l'histoire en permanence. Et ce qui est intéressant, c'est d'observer ces mécanismes, c'est-à-dire comment on peut rentrer là-dedans, comment on peut se laisser emporter par le mécanisme et comment le mécanisme peut nous emmener tellement loin qu'on n'est plus soi-même à un moment et que quand on revient, on se dit. Il y a une sorte d'effet de sidération qui dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait là ?» C'est impressionnant.
There's now to be there's also the flip side of this, which is that that just as it can be used for violence or for insensate things, it can also be used in a positive sense. So I mean, go to a concert and everybody is uplifted from the event. But again, it is the whole point of it is the loss of itself in a communal sort of entity. So it has the positive associations where you can experience joy, you can experience happiness, and you can experience communion in a very real sense. But the flip side of that is that anything positive that you can experience, there's going to be a negative aspect about it as well. So.
Concluons peut-être avec une petite séquence de questions. Je pense que vous en avez. C'est parti.
Oui, bonjour. Merci pour vos interventions respectives. J'avais une question. Moi, je suis de formation scientifique, du coup, je suis assez attaché à l'expérimentation. Et pour moi, le corps et l'esprit sont assez indissociables parce que dès qu'on commence à faire des modifications sur l'esprit, ça se ressent sur le corps et inversement. Pour vous, ma question, c'est pour vous, comment est-ce qu'on peut faire l'expérience du pur esprit ou du pur corps ? Voilà.
You can't. That's the simple. You just said it yourself. The effect of the mind affects the body. The effect of the body affects the mind. We are discovering all new things about the body affecting the mind in ways that we haven't before. In the last few years, people have discovered that the flora in your gut, the microbes in your gut, have a definite effect on what your mind is doing. There are other aspects about that. It's impossible to separate the two of them. And so any sort of inquiry into both has to have the understanding of that fact.
Vous direz ça après ma mort, je viens de vous faire un rapport.
On avait d'autres questions au fond.
Vous nous avez donné un exemple tout à l'heure de quelque chose de positif dans le fait que l'individu puisse se perdre dans le groupe, Monsieur Scalzi. Je suis un peu frustré parce que face à tous les aspects négatifs que la foule peut recouvrir, est-ce que vous auriez des choses plus constructives à nous présenter, en particulier en tant qu'auteur de science-fiction ?
Good luck.
I was about to say, wow. Yeah, thanks. I do believe that, when people are in a crowd, they're not going to be listening to me unless I am up on a podium and they're the reason that the crowd has existed in the first place. The one thing you can do as a writer of science fiction or as a writer or as a speaker or thinker is to remind people that when they are in a crowd and they feel themselves losing themselves into the crowd, that they are still responsible for their own actions. And so that even in the moment when you are in the crowd and you are giving yourself over to the passions of the crowd, that you are still, you should still be aware, you should still be cognizant, you should still have that least tiny part of your brain that separates out. Now, whether or not that's actually going to happen, you got me. But that's the thing is that part of what we do is spend our time when we are talking as individuals, reasoning as individuals, telling people these are the things that will happen, these are the things that you should be concerned about, these are the things that you should be aware of, even as you give yourself into a moment, and just hope that somehow they listen to it. we are the same creatures that we have been for 30,000 years. We will still continue to do these things until we get to the point where we separate our minds from our bodies in such a significant way that they know our minds no longer function like they do now. So we will always be susceptible to groupthink. We will always be susceptible to subsuming ourselves in as individuals into a larger aspect. And the only way to fight against that is when we have time thinking as individuals to armor ourselves with knowledge and logic and hope that in the moment some part of that remains.
Oui, bonjour. Une question pour les trois écrivains. Finalement, vous êtes des créateurs. Est-ce que la création, c'est pas déjà une sorte de mind uploading assez matérialiste, finalement? Vous, longtemps après votre mort, vous pourrez faire rire des gens ou les émouvoir grâce à des personnages ou des choses que vous avez écrites.
Voilà. C'est pas vraiment la préoccupation principale quand j'écris un livre. C'est, ça m'appartient pas. Ce genre de choses n'appartient pas du tout à l'auteur. C'est-à-dire, bon, moi, je fais des histoires qui me traversent. J'accueille les histoires qui arrivent et puis je les offre aux gens. Enfin, je ne suis qu'un passeur d'histoires. Et je ne sais pas ce qu'elles deviendront après ma mort. Je ne sais pas combien de temps elles dureront. Elles disparaîtront peut-être rapidement. Elles sont peut-être déjà disparues d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas ça. Mais ce n'est vraiment pas ma préoccupation quand j'écris. C'est juste parce que c'est indispensable de le faire. Voilà. Je n'ai pas d'autre choix que de le faire. Donc je le fais. Et après, le reste ne m'appartient pas. De la même façon que dans le métier d'écrivain, il n'y a pas beaucoup de choses qui vous appartiennent parce que lorsque vous écrivez votre livre, vous allez jusqu'au bout de votre livre et après, vous le transmettez à un éditeur et l'éditeur va prendre ou ne pas prendre et ça ne vous appartient plus à un moment. Et après, l'éditeur va publier le livre éventuellement et il va le mettre en à disposition du public et les gens vont adhérer ou ne vont pas adhérer, ça ne vous appartient plus. Peut-être que ça, en 50 ans, le livre va pas du tout se vendre, il va pas être lu, va être, et puis d'un seul coup, il va ressortir de l'oubli 50 ans plus tard, et puis etc., etc. Donc, c'est vraiment là, on n'a aucune maîtrise sur rien, de rien, et je sais pas, je sais pas du tout quelle sera ma postérité, et puis à la limite, ça me regardera plus.
Et puis, comme disait John, les lecteurs vont s'approprier les personnages et finalement, il restera plus grand-chose peut-être de ce qu'on avait voulu mettre dedans, puisqu'à force d'avoir des lecteurs différents, à des époques différentes, si tant est que ça perdure, il restera finalement des silhouettes avec des vagues caractéristiques, mais qui seront peut-être très éloignées de ce qu'on avait voulu faire passer à l'origine. Donc,
ce qui serait extraordinaire, c'est de faire comme certains personnages qui deviennent des noms communs. Là, ça c'est un peu la classe. Mais bon, les auteurs pour qui c'est arrivé ne sont pas là pour le voir. Donc, c'est pas très, très important, finalement.
One of the things I do think that fundamentally you're correct that your writing can outlast your body. That the people will be able to read your books and be able to get some idea of who you are through your characters and so on and so forth. But remember that usually when you're doing that, you are telling a story. You're not usually just speaking directly to the reader themselves. The other thing is that anybody who is hoping to achieve immortality through text had better brace themselves for disappointment. I regularly go back and I look at the best-selling books in the United States from 100 years previous to the current date, and very frequently, I don't recognize any of the books, I don't recognize any of the authors, and yet these were the most successful books of their time, and that is very much a memento mori, if you want to put it that way, the person whispering in your ear that all things are mortal and you shall pass. So as a writer, again, I agree with Pierre. I mean, I'm writing a story that I hope people today will enjoy, that they will like. If it lasts for 100 years or 200 years or 300 years or 20 or 10 or not at all, that's not up to me. At the moment, I want to be able to share them with you and also pay my rent. So.
Very important.
Very important. One last question, anyone?
Je crois que j'avais vu quelqu'un lever la main de ce côté-là.
Merci, bonjour. En tant que gens d'esprit, puisque vous êtes tous écrivains, est-ce que le fait de faire fonctionner l'esprit apporte un bien-être au corps ? Ou inversement, est-ce que vous entretenez votre corps d'une certaine manière pour que l'esprit fonctionne ?
Have you seen this? I need a lot more exercise of my body because I spend too much time in my mind. But certainly you can spend too much time thinking and not enough time taking care of your body. And France isn't helping. I had two of those yesterday. Those are amazing, and they went straight to my gut. So France, you are trying to kill me.
Mais en revanche, le décrire, ça fait traverser des émotions particulières qui jouent sur le corps. Certaines journées, c'est tellement difficile à écrire. Bon, je ne vais pas faire le mec qui souffre terriblement, mais c'est vrai que certaines journées, je sors d'une séance d'écriture complètement lessivée, alors que je n'ai pas bougé de ma table. Je suis resté plusieurs heures devant mon ordinateur en train d'écrire et je suis complètement lessivé, comme si je venais de faire un marathon. Et c'est étonnant parce qu'il y a certains passages qui exigent une telle énergie d'écriture que c'est le corps qui travaille quasiment. Pas seulement l'esprit, et pas seulement pour taper sur l'ordinateur, mais vraiment on a l'impression d'avoir été moulu par les émotions. Ça m'arrive de temps en temps. Souvent même.
Et d'autre part, je crois qu'il a été montré très sérieusement que marcher, par exemple, permet de réactiver l'esprit. Et ça se sent effectivement. Si moi je suis coincée sur un paragraphe, quelque chose qui avance pas, j'en ai marre, j'ai envie de passer l'ordinateur par la fenêtre. Bon, en général, je le pose. Et puis je vais faire un petit tour. Et souvent, effectivement, ça permet de décoincer les choses. Voilà, avoir le corps en mouvement et pas figé devant son ordinateur. Voilà, enroulé dans son plaid, ça peut aider.
C'était le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis.